Radio Okapi. Parité et famille.
Et je suis ravie de vous retrouver dans ce numéro de Parité et Famille consacré aux droits des enfants, notamment celui de l'éducation. En effet, en 1989, les responsables politiques se sont engagés à construire un monde digne des enfants. La convention relative aux droits des enfants a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies. À son article 28, il est stipulé « Chaque enfant a droit à l'éducation et à des possibilités d'apprentissage ». En République démocratique du Congo, il a été décidé donc la gratuité de l'enseignement de base pour permettre à tous les enfants d'avoir accès à l'éducation. Mais cette décision rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre. Qu'est-ce qui empêche la concrétisation de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo? Nous en parlons avec quelques parents et quelques experts qui se sont penchés sur la question. Pour bien comprendre cette problématique des financements du secteur de l'éducation, remontons d'abord dans le passé, à l'époque coloniale plus précisément, pour comprendre les mécanismes des financements de l'enseignement. Et nous en parlons avec le professeur Bela Kissa, sociologue, professeur des universités.
Quand le Congo devient une colonie belge et qu'il y a un besoin important qui se ressent, un besoin d'industrialisation, de mettre l'économie en marche, les colonisateurs vont se rendre compte qu'il faut former la population autochtone pour en faire des auxiliaires à des niveaux inférieurs. C'est ainsi que la colonisation plutôt, elle va commencer à créer des écoles et non pas directement, c'est-à-dire il n'y aura pas d'école publique. Il faut bien le dire pendant la colonisation. La colonisation va faire appel aux missionnaires, surtout les missionnaires catholiques. Il y a une sorte de concordat qui se passe entre l'État belge et l'Église catholique. Pourquoi l'Église catholique? Et pourquoi pas les autres églises? L'Église protestante sera absolument marginalisée et pendant toute une époque, jusque vers les années 50, les écoles protestantes ne seront pas subsidiées. Parce que il ne faut pas oublier que les protestants sont le premier à avoir critiqué les atrocités de Léopold II. Et je crois que la Belgique se méfiait énormément des protestants qui venaient éventuellement, normalement, des États-Unis et de l'Angleterre. Deux États qui avaient très profondément critiqué la gouvernance de Léopold II. Donc ce sont des catholiques qui vont organiser et s'aimer l'enseignement, qui sera plutôt l'enseignement périprimaire, je dis bien périprimaire. Oui, c'est-à-dire en fait, l'enseignement général donné aux indigènes s'arrêtait pour la plupart au niveau de la troisième primaire. Après la troisième primaire, il y avait des orientations pour des jeunes un peu plus intelligents, ce qu'on appelait des écoles professionnelles, où on formait des artisans, l'école professionnelle des menuisiers, des ébénistes, des forgerons. Et c'était après la troisième année. Ils pouvaient faire 2 ou 3 ans pour devenir des ouvriers non qualifiés. Et au fur et à mesure, après la guerre, on va créer un autre système. La colonisation, voulant voir un personnel un peu plus qualifié, va améliorer le système d'enseignement. Donc, ce qui fait qu'il y aura un cycle complet d'enseignement primaire pour des élèves doués. Parce qu'après la troisième primaire, il y a ce qu'on appelait la troisième sélectionnée. On sélectionnait les élèves les plus doués à qui on donnait la possibilité de faire des études primaires complètes. Et après les études primaires complètes, il y avait 4 ans. On devenait moniteur à l'école normale, on appelait l'école normale, l'école moyenne pour devenir des sténodactylos, des commis de l'État. Et il y avait, ça c'était exceptionnel, les humanités comme telles. Généralement, c'était les séminaires, c'était pour la formation des prêtres. C'est ainsi que dans une grande région, on pouvait trouver seulement une école secondaire. C'est en 1948 qu'il y a une évolution, que les Belges vont commencer à penser à créer des véritables humanités. Je prendrai par exemple au Kwilu, la région qui est aujourd'hui la région du Kwilu, il y aura tout au plus une école, une seule école secondaire complète. Ce sera le collège de Kinyati. Je prendrai la ville de Kinshasa. Il n'y aura pas une école secondaire pour filles. Les filles s'arrêtaient au niveau de la quatrième primaire, à ce qu'on appelle aujourd'hui, à ce qui était, sur Cabambard, il y a un lycée de sœurs. C'était Sainte-Thérèse des Lisieux. À l'exception, évidemment, des écoles pour Européens. Alors, arrivent les années 53-54, les socialistes arrivent au pouvoir et les libéraux. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont remettre en question le monopole de l'Église catholique, que vont se créer au Congo les premières écoles laïques. Les premières écoles laïques pour Noirs, et parce qu'il existait déjà des écoles laïques pour Blancs. Par exemple, l'Athénée de Kalina, l'Athénée de Lubumbashi existait déjà. Donc il y a déjà une certaine évolution après 58. Cette évolution va continuer jusqu'à, vous savez, jusqu'à la création de l'université du Congo belge et du Rwanda-Urundi à Elisabethville, qui deviendra puis par l'université d'Elisabethville, l'UOC actuellement, et il y a l'université Lovanium. Cette évolution continue, malheureusement ou heureusement, il y a l'indépendance. Et on se rend compte qu'il y a un déficit total de cadres pour gérer le pays. Et c'est un problème général, je crois, de toute l'Afrique noire. C'est ainsi qu'en 1965, va se tenir à Addis Abeba une conférence importante où les Africains, on va décider d'avoir une politique de scolarisation totale à l'aube de l'année 1980. Et on aura remarqué que les budgets affectés à l'éducation dans presque tous les pays d'Afrique, les budgets vont varier entre 25 et 30%. 30% du budget national. Et au Congo, ça sera la même chose. De 1960 jusque vers les années 1966-67, le budget de l'enseignement, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement universitaire, varie entre 25 et 30%.
Pour ne pas vous couper, vous avez parlé de l'enseignement depuis l'époque coloniale. Alors, le petit Congolais, là, qui allait à l'école périprimaire ou alors qui allait apprendre à être menuisier et tout ça, qui finançait ces études?
Oui, c'est une bonne question. Il faut dire que il y avait une contrainte. La colonisation se trouvait devant une contrainte, avoir un personnel plus ou moins qualifié. Dans certaines régions, il y avait une certaine réticence. Mais il faut dire que l'essaimage de ces écoles périprimaires et primaires, c'était plutôt dans des régions du Congo où il y avait une certaine industrie. Où il existait une certaine industrie, telle qu'au Katanga, les industries minières, au Bas-Congo, au Bandundu, avec les industries telles que les PLZ, ce qu'on appelait les Wiliru du Congo belge. Donc, ce qui fait que l'enseignement était pris en charge et par les entreprises, par les grandes sociétés telles que l'Union Minière du Haut-Katanga, qui formaient ses propres cadres, qui formaient les fils de ces ouvriers, parce que c'était une main-d'œuvre, c'était une source de main-d'œuvre, comme au Kwilu, c'était les plantations de lever au Congo, qui avaient des écoles, et même une école moyenne qui formait des commis. Et l'enseignement était complètement gratuit, c'est-à-dire l'uniforme, bon, c'était très simple, rudimentaire, il faut avouer, l'uniforme, le tout, la prise en charge était complète. Le déplacement des élèves, la nourriture, les internats. C'était absolument gratuit, parce qu'il faut dire deux choses. Les entreprises avaient absolument besoin de ce personnel, et puis il y a aussi la pression démographique qui n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui.
Professeur Mbéla Kiza, sociologue et professeur des universités. Alors, comment a-t-on financé les écoles pendant la période post-coloniale en Afrique et au Congo en particulier? Retrouvons encore une fois le professeur Mbéla Kiza pour en savoir.
C'est en 65 qu'il y a cette conférence, disons, d'Addis Abeba. C'était un rêve. C'était en fait un rêve parce que de plus en plus les États africains vont se rendre compte que budgétairement, qui ne pouvaient plus consacrer 30% de l'enseignement parce qu'il y avait d'autres besoins, les infrastructures, la santé. Et puis, il y avait la pression démographique. Et troisièmement, il y a le fait qu'il n'y avait pas une adéquation entre le flux de jeunes qui étaient formés et les réalités économiques. C'est ainsi que pour la première fois en Afrique, on va créer un véritable chômage des gens qui ont étudié. Un véritable chômage des gens qui ont étudié. Les industries n'ont pas évolué comme on s'attendait, les secteurs économiques. Bon, encore que dans certains pays comme chez nous, il y a eu les rébellions qui ont détruit certaines infrastructures économiques. Donc, il y a eu un manque d'adéquation entre l'économie qui devait absorber ces gens formés et les personnels formés. Bon, cela va continuer, mais il y a des pressions démographiques qui vont venir. Les pressions démographiques, et il faut aussi reconnaître que l'État congolais va faire des efforts énormes dans la création des écoles. Si vous prenez la ville de Kinshasa, en 1960, il y avait à peine 4 écoles secondaires dans la ville de Kinshasa pour des garçons. Il y avait Saint-Raphaël, qui existe aujourd'hui, catholique. Il y avait Saint-Joseph, disons, Elikia, je crois. Il y avait Sainte-Marie, qui existait. Et il y avait le collège Albert. Bon,
toutes les écoles catholiques.
Toutes les écoles catholiques. Bon, il y avait quand même l'Athénée royale. Et après, on va créer d'autres écoles. Oui, oui, l'Athénée royale qui était l'Athénée royale de Kalina, qui était en fait l'Athénée pour blancs, comme le collège Albert était le collège pour blancs. C'est en 58 qu'on va accepter les premiers Congolais. C'est en 58. Donc en fait, il y aura un effort à Kinshasa, il y en a un effort partout, parce qu'on va se rendre compte qu'il faut former, on va créer des écoles, un peu à la va-vite. On va créer des écoles. Mais la plupart de ces écoles, dans leur grande majorité, seront soit catholiques, minoritairement protestantes, et disons l'État congolais. Ce système va continuer. Et je crois qu'il faut dire une chose, c'est avec la zarianisation. Donc en fait, les grandes querelles entre l'Église catholique et l'État congolais, que les choses commencent à se compliquer. Les choses se compliquent parce qu'avec la zarianisation, de plus en plus de donateurs étrangers vont se désengager. Et on va connaître une période de crise. Après cette période de crise, l'euphorie de l'État va s'estomper, l'État va se rendre compte qu'il est absolument incapable de prendre en charge toutes les écoles. Parce qu'on va les créer, les écoles seront créées sans plan. Sans prendre en compte les réalités économiques. Mais parce que, un, il y a une pression démographique très très forte, surtout dans les villes, mais il faut scolariser ces jeunes, et les conditions, évidemment, de scolarisation vont absolument se dégrader. Parce qu'il faut savoir qu'à Kinshasa, jusque vers les années 64, tous les élèves étaient transportés. Il y avait un transport scolaire bien organisé. Bien organisé. Et ce n'est pas les parents qui se débrouillaient pour amener leurs enfants à l'école. Il y avait les bus scolaires à des temps et respectés. C'était bien organisé. Donc, il faut dire cette pression démographique qui a été un élément, disons, très négatif, et aussi ce désamour entre l'État et les confessions religieuses, qui étaient les plus grandes organisatrices, les grandes fournisseurs, disons, du système d'enseignement dans notre pays. Alors, ça sera un décalage et cet héritage malheureux va s'accentuer jusqu'au moment où le pays va sombrer économiquement. Sombrer économiquement d'abord sur les plans internes, la production va diminuer, l'économie est en berne. Et sur les plans extérieurs, nous allons entrer en contact avec le Fonds monétaire international qui va nous imposer le plan d'ajustement structurel. Et dans les plans d'ajustement structurel, justement, il y aura des limites, on va limiter les budgets alloués à l'enseignement et aux services sociaux. Alors, viendra donc ce qu'on appelle la prise en charge des parents qui sera en fait un succès d'année et c'était nécessaire, sinon les enfants n'allaient pas être scolarisés. Mais ce que les gens oublient aussi, que contrairement, c'est vrai qu'on a créé beaucoup d'écoles, mais il faut savoir aussi qu'à partir des années 68-69, on a connu une déscolarisation importante. Contrairement à ce qu'on croit. On a connu une déscolarisation importante. Il y a des régions entières, surtout à l'intérieur, où, il faut dire, les enfants n'allaient plus à l'école. Non seulement n'allaient plus à l'école, mais il y a aussi ce qu'on appelle, disons, l'alphabétisme de retour. C'est-à-dire, après la troisième primaire, un enfant qui ne fait rien, généralement, redevient un alphabète.
Ouais.
Oui, ça, il faut dire.
Toujours pour vous permettre de mieux cerner les obstacles à l'accès de l'enseignement pour tous, je vous prie donc de suivre les explications du professeur Koukatoula, économiste et professeur des universités.
L'enseignement des bases, nous voulons dire dans l'école primaire et secondaire. Les budgets étaient de l'ordre, je peux me tromper, mais il faut vérifier, de l'ordre de plus ou moins 20% par rapport au budget national. Alors, après l'indépendance, les mêmes élans, on a poursuivi les mêmes élans, mais arrivé aux années 70, 70, 73, 74, il y a d'abord un grand problème qui s'est posé au pays, c'était la zéganisation, avec la nationalisation, ensuite la crise du pétrole, et à partir de ces années-là, 74, 75, 76, on a connu un problème financier au pays. Et arrivé aux années, vers les années 80, le gouvernement de la République a dû recourir à l'appui des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et les FMI. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là qu'on a appliqué le programme d'ajustement structurel, un programme basé sur l'austérité budgétaire. Et avec l'austérité budgétaire, on a effectué des coupes sur les budgets sociaux. Entendez par budgets sociaux, les budgets de l'éducation et les budgets de la santé principalement, dans le banc de l'agriculture et ainsi de suite, principalement. Et ceci a fait que, on a ayant réduit sensiblement les budgets de l'éducation, parce que c'est de ça que nous parlons, l'enseignement, disons, les promoteurs d'école étaient obligés, pour pallier, pour résoudre ces problèmes-là, de recourir au financement ou au partenariat des parents. C'est à partir de ces moments-là que les parents commencent à participer au budget de l'enseignement des écoles, si vous voulez. Et tout est parti de là.
Est-ce que c'était une bonne idée de réduire le budget de l'éducation?
Bonne idée, c'est... Non, pour le moment, les temps démontrent que ce n'était pas une bonne idée. Parce qu'on revient encore sur cette fameuse gratuité. Il faut noter que cette affaire-là, de réduire les budgets sociaux, d'austérité budgétaire, ces programmes d'ajustement structurel, n'ont été appliqués que dans certains pays en développement, notamment la RDC, mais certains pays asiatiques n'ont pas accepté ces programmes d'institutions de Bretton Woods. D'ailleurs, c'est ça qui fait que, pendant que nos pays appliquaient ces programmes-là, eux, ils appliquaient notre programme, c'est pour ça qu'ils ont émergé. Ce n'était pas une bonne idée, parce que la preuve, c'est qu'on revient à la gratuité.
Mais actuellement, ça pose problème. On tâtonne aujourd'hui dans certaines écoles, surtout les écoles conventionnées catholiques, ce sont les parents et les enseignants qui se sont entendus pour reprendre les contributions des parents, parce que sinon les enfants ne vont pas étudier. Mais dites-moi, est-ce que vraiment ce n'est pas réalisable la gratuité dans un grand pays comme le Congo avec les richesses que nous avons?
Non, c'est réalisable, mais ça représente un coût. Ça suppose que si on parle de la gratuité, au fait ce n'est pas la gratuité. À mon avis, c'est une appellation qui est un peu abusive. L'enseignement ne peut pas être gratuit quelque part, ce sont des prestations. Ça suppose que si c'est gratuit pour les parents, ce n'est pas gratuit pour l'État. Donc, si l'État, les parents ne payent pas, prenons, c'est l'État qui doit payer. Alors, si l'État ne paye pas le montant qu'il faut, ça suppose qu'il y a une décote quelque part, un écart. Et je pense que tel que vous dites que les certaines écoles, vous dites, certaines écoles conventionnées catholiques, et commencent à constater que la qualité baisse et que l'État n'arrive pas à payer ce qu'il faut, ces écoles conventionnées recourent aux parents pour dire, si vous voulez que vos enfants aient un enseignement de qualité, il faut supplier le montant qu'il faut pour que... Donc, en fait, la gratuité n'existe pas comme telle. Dit qu'il faut payer les enseignants comme il faut les payer, il faut payer les objets scolaires, il faut s'occuper des investissements scolaires, et c'est tout ça que l'État doit prendre en charge. Mais dans les faits, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas les budgets en tête. Si ce n'est pas fait, c'est pour cela que, probablement que ce n'est pas fait, c'est pour cela que ces écoles-là recourent encore aux parents.
Mais, professeur Koukatoula, économiste et professeur des universités, lors de son investiture, le président Félix Tshisekedi avait décidé de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette décision rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre. Quelle stratégie pour concrétiser, donc pour matérialiser cette décision politique? Suivez les avis que nous avons recueillis. Je vous propose d'abord l'avis de M. Claude Yamba.
La première des choses que l'État congolais doit commencer par maîtriser, c'est maîtriser d'abord les effectifs dans l'enseignement. Et ce n'est pas seulement le cas de l'enseignement, c'est le cas de la fonction publique, l'armée, la police. Ça, ce sont des situations qui doivent être maîtrisées. Comme il s'agit ici de l'enseignement, je veux juste m'arrêter sur l'enseignement. Donc, je disais que la première des choses, c'est commencer par maîtriser les effectifs. Une fois que les effectifs sont maîtrisés, on peut prendre le budget existant pour l'enseignement et arriver à définir un barème salarial là où tous les enseignants primaires, les enseignants de l'école primaire peuvent avoir une base commune pour tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Les enseignants des humanités peuvent avoir une base commune pour tout le monde. L'université, la même chose. Une fois que cette base est définie, je prends un cas par exemple, on peut arriver à définir un barème pour dire que la base pour chaque enseignant est de 220 dollars. Qu'il soit dans les milieux ruraux, qu'il soit dans la ville, il peut avoir ce 220 dollars comme base. La différence viendra dans le traitement en ce qui concerne juste le rubrique d'avantage. Donc, je prends ici le cas du transport et du logement. Les enseignants des milieux ruraux, si on leur donne un forfait d'un 20 dollars pour le transport, un 30 dollars pour le logement, c'est amplement suffisant. Ils peuvent avoir, à ce moment-là, 220 de base, plus 70 dollars qui représentent, 50-70 dollars qui peuvent représenter transport et logement, ils auront à peu près un 300 dollars de salaire. Et les enseignants qui sont dans des centres-villes peuvent avoir la même base de 220 dollars, mais à ce moment-là, dans les deux rubriques, transport et logement, on doit donner le moyen qui répondent aux besoins. À ce moment-là, ça va créer une différence de traitement, mais c'est par rapport au milieu. Et je crois que cet exercice, si on le fait, on va résoudre le problème de la gratuité de l'enseignement.
Et à présent, revenons au professeur Mbela qui donne également son avis sur la possibilité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo.
Le problème actuellement, c'est de trouver d'autres stratégies qui permettent l'accès à l'instruction. Je dis bien l'accès à l'instruction, mais pas nécessairement à l'éducation formelle, c'est-à-dire la scolarisation. Ce sont deux choses différentes. L'aspect à l'instruction. Il y a les mass médias, il y a les associations de parents, il y a beaucoup de stratégies qu'on peut adopter. Parce que la question que vous posez, la scolarisation, pourquoi faire? Vous n'allez pas me dire, madame, qu'aujourd'hui, pour former un bon paysan, il faut qu'il aille à l'école. Un bon paysan, il ne va pas nécessairement à l'école. Il y a d'autres voies. Par cette formation informelle, on peut l'amener pour qu'il soit un bon paysan, qu'il sache comptabiliser, qu'il sache faire le calcul les plus élémentaires, qu'il sache entrer sur le marché. Il ne faut pas nécessairement qu'il ait l'école.
Encore faut-il que la population accepte ça, parce que ici tout le monde veut faire ce que tout le monde fait.
Non, oui, c'est-à-dire, à moins que la population accepte, oui, la population peut accepter. Si les gens se rendent compte, et aujourd'hui, c'est qui s'est fait en Europe? Aujourd'hui, la réalité en Europe est celle-là. Les gens se rendent compte que aller à l'école, c'est un investissement. Mais il faut que cet investissement reparte. N'est-ce pas? Les parents vont se dire, mon fils va à l'école, il va faire six ans à l'école primaire, 2 ans de plus, comme dans les temps, on disait l'école selon 8 ans, puis il va terminer les humanités. Et après, il n'a pas de travail, même s'il trouve du travail, il aura à peine de quoi acheter un pain. Mais il va étudier moins dans le système non scolaire. Il n'a pas de diplôme, mais il est un bon menuisier, il est un bon ajusteur. Mais il va gagner 3 ou 4 fois plus. Mais non, mais le problème, les gens vont raisonner. Le raisonnement, enfin, est économique. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent aller à l'école? Parce qu'ils savent que le diplôme est devenu un sésame ouvre-toi pour avoir de l'argent.
Mais bon,
oui, un sésame ouvre-toi, c'est le seul moyen pour accéder à certaines fonctions. Mais ce n'est pas le cas. Mais madame, vous allez en Europe, quand vous appelez quelqu'un venir réparer votre téléviseur, vous habitez au 4e étage d'un immeuble. Mais ce gars-là, mais il gagne bien sa vie. Il gagne bien sa vie. Il gagne bien sa vie. Et vous aurez remarqué aujourd'hui que même dans des universités européennes, le choix des études est très important. On va dans des filières qui permettent d'accéder à un emploi. Et les gens vont accepter un cycle court dans la mesure où ils savent qu'après ce cycle, ils peuvent bien gagner leur vie. Les études ne sont pas une finalité. Ici, les études sont devenues une finalité parce que l'économie est bloquée. L'économie est extrêmement bloquée. Mais imaginez-vous qu'il y ait un pays où il y a une économie qui marche florissante. Ça, nous pouvons le faire. Mais pourquoi aller perdre 5 ans pour faire les sciences sociales, devenir un petit fonctionnaire, alors qu'on peut faire 2 ans de formation professionnelle pour gagner plus? C'est ça la question.
Par ici que nous bouclons cette émission sur la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour le prochain magazine Parité et Famille. Bye.